Je voudrais commémorer Don Jean Anselme Matisse. C'est un bénédictin de Saint-Benoît-du-Lac qui est décédé il n'y a que 12 ans, en 1984. Un homme auquel l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac doit beaucoup. C'est presque un fondateur de l'abbaye dans un sens. Et vous verrez ce que je veux dire, tellement il s'est dévoué corps et âme à parcourir le Québec, non seulement pour ramasser des fonds pour la construction de cet immense monastère, mais aussi pour prêcher, pour donner des conférences spirituelles, pour encourager les gens à vivre de la liturgie, à être des laïcs vivants. Il a fondé des mouvements comme les Amis de Saint-Benoît-du-Lac, qui comptent de nombreux laïcs qui sont fervents de Saint-Benoît-du-Lac et qui sont, on l'espère, des gens qui vivent dans le laïcat une part de l'esprit bénédictin. Ici Raymond Beaugrand-Champagne. Avant de commencer à vous parler de Don Matisse, qui est mort, comme je vous ai dit, il y a 12 ans aujourd'hui, j'aimerais commémorer aussi quelqu'un qui est le fondateur de Saint-Benoît-du-Lac, dont Paul Vanier, dont l'anniversaire du décès est demain. Je ne vous en parlerai pas très longtemps, mais c'est très émouvant. Très émouvant. Cette abbaye qui est très connue de Saint-Benoît-du-Lac, je la situe pour ceux qui ne sauraient pas, c'est dans les cantons de l'Est, dans des montagnes sublimes, c'est de toute beauté. Au-dessus du lac Memphrémagog, cet immense lac qui a, si je me souviens bien, environ 35 000 de long et dont une portion est aux États-Unis. C'est près de Magog, sur la route qui mène à Sherbrooke. On atteint ce monastère par l'autoroute des cantons de l'Est. Mais autrefois, quand ça a été fondé, c'était perdu en pleine campagne, dans des routes de terre. Et j'ai connu ce monastère dans les années 30 et 40, c'était des routes de terre. C'était très loin, c'était très très loin de Montréal, alors que c'est tout près aujourd'hui, c'est une question même pas de 2 heures. Et tout ça a commencé, on peut dire, vers 1910. Un bénédictin dont Lucien David est venu au congrès eucharistique de Montréal, ce fameux congrès eucharistique, où Henri Bourassa avait répliqué à un évêque très important, irlandais, qui nous invitait, nous les gens de langue française, à passer à la langue anglaise afin d'évangéliser l'Amérique du Nord. Et Henri Bourassa lui avait répondu, et mon père nous a tellement parlé de ça parce qu'il avait été présent à cet événement. Mon père qui est né en 1881, alors il avait déjà près de 30 ans. Non seulement dont Lucien David est-il venu à Montréal au congrès eucharistique pour y diriger le chant, car on voulait avoir déjà en 1910 à l'église Notre-Dame du beau chant grégorien, mais aussi pour négocier une fondation de monastère. Dont Lucien David a vu l'évêque de Sherbrooke, Monseigneur Paul Larocque à l'époque, qui a promis son concours en vue de l'installation des bénédictins dans son diocèse, et les choses en sont restées là. Vous allez voir, c'est héroïque, c'est absolument phénoménal quand on y pense, ce qui est arrivé. Aux vacances de Noël 1911, un étudiant de Louvain, en Belgique, est venu rendre visite aux moines de Saint-Vendry, qui étaient établis à Dongelberg. Cet étudiant, qui s'appelait l'abbé Joseph Laferrière, qui était professeur au séminaire de Saint-Hyacinthe, était intéressé par la vie bénédictine. Puis il était intéressé aussi à la fondation d'un monastère au Québec. Il a offert ses services pour en faciliter la réalisation. Le père abbé, le chapitre de ce monastère, qui était au fond un monastère de réfugiés, ont consenti, et voilà que c'est Don Paul Vanier, V-A-2-N-I-E-R, c'est lui le fondateur du monastère, Don Paul Vanier, qui était l'ancien sous-prieur de l'abbaye de Clairvaux au Luxembourg, a tenté, a décidé de tenter l'expérience. C'est héroïque. Il faut être presque fou pour faire ça. C'est épouvantable. Et là, le père prieur, dont Paul Picard, lui, là-bas, à Clairvaux, au Luxembourg, l'a mis en relation avec l'abbé Laferrière. Et c'est curieux de penser qu'il y avait là un prêtre en Europe, un prêtre d'ici, qui songeait déjà à ça et qui était intéressé. Alors, ils ont été munis de l'approbation de la communauté, puis de celle de l'abbé de Solesmes, le fameux abbé de Solesmes, dont Paul Delatte, dont je prépare, au sujet duquel je prépare une émission, dont Paul Delatte, c'est un des grands, grands, grands bénédictins de ce siècle. Alors, ils ont quitté Don Gelberg, ce monastère, le 10 juin 1912, en compagnie d'un humble frère, Raphaël Pélissier, un postulant, c'est-à-dire quelqu'un qui venait d'entrer tout juste. Et puis, ils sont arrivés à Montréal le 4 juillet 1912. Et deux jours plus tard, Don Vanier allait à Oka, qui ne connaît pas Oka et les trappistes d'Oka, pour prendre conseil auprès du père abbé de la Trappe. Et après une visite, là, à l'évêque de Sherbrooke, ils se sont rendus à Magog. Je donne le nom chez un monsieur François-Xavier Brassard, qui est curé de la paroisse de Saint-Patrice à l'époque. Et celui-ci les ont amenés en yacht pour visiter une propriété sur la rive ouest du lac Memphrémagog, à 10 milles au sud. Ils ont été enchantés du site. Qui ne serait pas enchanté du site? Si vous n'êtes jamais allé là, allez voir, c'est très beau. Don Vanier, ce Français, a écrit à ses supérieurs qu'ils l'ont autorisé à acheter l'endroit. Alors, il a fait du ministère durant l'été dans le diocèse. Ça lui a permis de compléter un peu les fonds qu'on lui avait donnés, qui étaient nécessaires pour l'achat de cette ferme. Et l'inauguration date du 4 décembre 1912. Le 4 décembre, c'est pour ça que il n'y a pas si longtemps, la nouvelle église abbatiale de Saint-Benoît-du-Lac a été inaugurée à peu près à cette date. Il écrit, Don Vanier, « J'ai pris possession de la propriété aux premières vêpres, de l'illation de Saint-Benoît que j'ai récitée dans la soirée, en me promenant dans la propriété par une journée magnifique. Le soleil radieux, toute la neige des jours précédents fondue de la veille. » Je prie Dieu de nous venir en aide et de bénir une entreprise commencée pour sa gloire et la prospérité de l'ordre de Saint-Benoît. Alors, le nom de Saint-Benoît-du-Lac avait été choisi le mois précédent et le dimanche suivant, le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception, n'est-ce pas, avait lieu devant une quinzaine de personnes la première messe paroissiale, car l'évêque de Sherbrooke avait confié aux moines la mission catholique de ce coin, presque entièrement protestant à l'époque. Tout près du monastère, il y a un petit village qui s'appelle Austin, ce qui veut dire au fond Augustin, Austin. Et à Austin, il y a une petite église catholique, là, qui est desservie par les moines de Saint-Benoît-du-Lac, je crois, encore aujourd'hui. Ils ont acheté donc la propriété. Ça n'avait rien d'un monastère. J'ai vu ça, moi. Petite maison, avec des bâtiments de ferme, le tout en bois. Puis c'était pas neuf, hein, loin de là. À l'arrivée des deux frères postulants, ça a fait un petit germe dans la communauté. Mais au milieu de tous les travaux d'installation, puis ils vivaient dans la pénurie, l'isolement. C'était tellement dur. Ça demandait de tous un courage tellement épouvantable, une confiance héroïque, que bien des fois, Don Vanier avait presque l'impression que ça pourrait jamais marcher. Il faisait à pied, dans des chemins épouvantables, le trajet de Magog. C'est environ, je dirais, 14-15 000. Le lundi de Pâques, il écrit dans son journal, c'est le 24 mars, « Je reviens de Magog ». L'après-midi, aider les frères surchargés de travail et les encourager. Et en effet, je le constate en rentrant, tout le monde a besoin d'être affermi et consolé. Dieu nous viendra en aide si nous lui sommes fidèles. Alors, il y a des renforts qui sont arrivés. En avril, dont Félix Lajean, un moine de l'abbaye de Ligugé. L'abbaye de Ligugé, je vous en ai parlé, je vous en reparlerai le jour de la fête de Saint-Martin. C'est la plus vieille abbaye de France, fondée au IVe siècle. Il y a toujours des moines bénédictins. Là, ce sont les mêmes moines que ceux de Saint-Benoît-du-Lac. Donc, Félix Lajean, moine de Ligugé, qui depuis plusieurs années s'adonnait au ministère dans l'Ouest canadien, est venu. Et au mois d'août, dont Ernest Boitard, puis le frère Hilaire Frodeau, que j'ai bien connu, qui était un saint. Hilaire Frodeau. C'est l'abbaye Saint-Vendry qui envoyait ses moines pour prêter main forte à cette jeune fondation. Le don Boitard, lui, était âgé de 40 ans, était prêtre depuis plusieurs années. Et le frère Hilaire, né du Poitou, avait des yeux magnifiques. Magnifiques. Un regard qui nous faisait deviner que l'au-delà existe. S'il avait été moine de Ligugé, puis ensuite de Saint-Vendry, ce frère Hilaire. Et il est arrivé au Canada à l'âge de 50 ans. Il est mort en 1949 après une longue vie de dévouement. Il aura connu toutes les vicissitudes du début, les difficultés. C'est le dernier témoin des temps héroïques. Et sa vertu éprouvée aura fait de lui, frère Hilaire, un humble frère, oui, un humble frère, un vrai fondateur de Saint-Benoît-du-Lac, tant au spirituel qu'au temporel. Donc, avec l'arrivée de ces trois moines, on pouvait constituer un début de communauté. Et de fait, le dimanche 24 août, bien, on chantait les vers. Là, des postulants de cette époque, aucun n'a persévéré. Mais là, le 2 août 1914, la guerre éclatait en Europe, et pendant toute sa durée, bien, Saint-Benoît-du-Lac se trouvera isolé de son abbaye fondatrice, dans sa petite maison de rien du tout. Hein. Oh mon Dieu, il y a quelques rares fenêtres. C'est tout petit, ça existait encore il y a quelques années, mais malheureusement, moi personnellement, j'aurais souhaité qu'on conserve cette vieille maison, très humble, qu'on la déménage, qu'on la mette dans une espèce de jardin retiré, qu'on s'en serve comme musée. Peut-être que ça a été fait, mais je ne suis pas au courant. Oh, c'est dommage de détruire des choses comme ça. Alors, je voulais vous parler de Don Vanier. C'est le 30 novembre 1914. Don Vanier a tenu à se rendre à Sherbrooke pour l'anniversaire de la consécration épiscopale de Mgr Larocque. Puis arrivé depuis trop peu de temps au Canada pour bien connaître les dangers du climat, il a utilisé, malgré la saison avancée, une embarcation à moteur. Et vous verrez ce qui s'est passé. Ça n'est pas drôle. Car Don Vanier, qui a été le fondateur, le premier supérieur de ce monastère, qui était prophète de l'abbaye de Solesmes, qui était agrégé par la suite à la restauration d'un monastère, le monastère de Glanfeuille en Anjou, le monastère Saint-Maur, il a immigré avec ces moines-là, et en Belgique d'abord, puis à Clairvaux, au Luxembourg. Puis il a été cellérier, c'est-à-dire économe de ce monastère du Luxembourg. Il a été sous-prieur, c'était un homme remarquable, une grande droiture, une grande piété, un esprit de foi, un souci d'observance régulière, un zèle pour le Fils divin. Il a cultivé même le chant grégorien dans lequel il s'y connaissait beaucoup. C'était un ardent au travail. Il avait une loyauté indéfectible. Puis il attirait sur lui les tâches les plus difficiles. Donc il a été prêté à l'abbaye de Saint-Vendry, qui cherchait à s'établir au Canada, et il a été envoyé par Don Joseph Potier, le fameux Don Joseph Potier, pour y fonder cette maison, qui pourrait, par la suite, prendre des proportions de ce grand monastère que l'on connaît. Je vous raconterai comment il est mort. C'est tellement tragique. À tout à l'heure. Dans le journal de Don Vanier, on peut lire au 13 mai 1912... que ceux qui liront ces mots cherchent à travailler eux-mêmes à l'œuvre si péniblement commencée, et prient Dieu de la bénir, de la protéger, et de la développer pour la gloire et le salut des âmes, à l'honneur de notre bienheureux Père Saint-Benoît, sous le vocable duquel cette fondation a été placée. Et dans une lettre, quelques mois plus tard, toujours en 1912, il écrit au Père Prieur, à son prieur en France, « Suivant le nombre, nous nous occuperons de la paroisse, de ministère et d'une modeste exploitation, c'est une petite ferme, sans prétention que bien faire sur tous ces points, dans la mesure des forces et des moyens, avec le secours de Dieu. Ce secours ne semble pas manquer si l'on jette un regard sur la marche des événements depuis le commencement de cette affaire. La Providence semble vouloir la réussite de cette entreprise. À nous de correspondre au dessein de Dieu sur nous. La confiance en Dieu ne doit pas nous manquer, après la série de faits qui ont conduit l'entreprise là où elle est aujourd'hui. Et deux mois plus tard, il écrit, toujours au Père Prieur, « Je ne me laisse pas abattre par les difficultés. Le bon Dieu donne des consolations et des espérances que contrebalancent bien les ennuis de la vie. » Le 1er janvier 1913, l'année suivante, il écrit « En commençant cette année, nous demandons au Seigneur qu'il daigne nous aider de sa grâce et de son secours. Sans lui, nous ne pouvons rien faire de bien, ni assurer la réussite de l'œuvre entreprise ici. Que le Saint Patriarche Saint Benoît, le Patriarche des moines d'Occident, daigne nous bénir et nous protéger, car cette œuvre est entreprise pour sa gloire après celle de Dieu. » Il écrit encore au Père Prieur un mois plus tard, « La Providence donne des signes indéniables de protection et de bénédiction sans épargner ni les soucis ni les épreuves. » Et quelles épreuves, hein? Ni les préoccupations. Il gelait là-dedans, il pouvait à peine chauffer. « Je m'abandonne à elle, à la Providence, vous faisant connaître ses manifestations et vous laissant juge de faire ce que vous jugerez de plus convenable. » Il avait un courage de feu. Et arrivé au printemps, il dit « Je dois aller moi-même aux travaux pour donner un peu d'avance et pour encourager. Pour moi, j'aime cette vie de travail où l'organisation et la besogne s'imposent sur tous les points, car j'ai toujours eu en horreur la vie de propriétaire et de rentier, ruine de l'esprit religieux. » L'esprit d'un fondateur, l'esprit d'un pauvre, l'esprit d'un dépouillé. Le 12 mai 1913... Le printemps avance. Je vous y exposais, dit-il à son prieur, dans sa lettre, ma situation difficile à laquelle je ne vois pas d'issue, car tout est déception autour de moi. Et quand je crois tenir une solution, tout s'écroule. Je pense que si l'œuvre entreprise vient à réussir, je n'y serai pour rien du tout. Parce que les difficultés qui se présenteront sont insurmontables, et Dieu seul peut en triompher. Et le 31 décembre, à la veille, à la fin de l'année, il note dans son journal, « Cette année, la première de notre séjour ici a été difficile, pleine de soucis et de préoccupations. Les causes de ces difficultés sont diverses. L'arrivée dans un pays nouveau, qu'il fallait étudier et connaître, l'installation, l'organisation matérielle, les travaux à faire avec une main-d'œuvre difficile à se procurer et très coûteuse. La pénurie de ressources et de sujets. Telles sont les principales causes, mais pourtant, les résultats obtenus ne laissent pas d'être encourageants, et nous pouvons avoir foi et espérer dans l'avenir. » Et là, le 1er janvier 1914, dans son journal, on trouve ces trois lignes, « Puisse cette année qui commence apporter le développement matériel et spirituel de l'œuvre entreprise ici. C'est le vœu que nous formons et la prière que nous adressons à Dieu en ce jour. » Or, en 1914, il aurait été à peine commencé au prix d'immenses travaux, de tâches incroyables. Et comme Don Vanier, fondateur de ce monastère, Paul Vanier, se rendait à Magog avec un familier du monastère, Charles Collot, et leur embarcation qui les portait a été comme sciée par une mince couche de glace qui s'était formée sur le lac et qu'ils n'avaient pas vue. Leur embarcation a été sciée, et tous les deux ont péri. Et c'était le 30 novembre 1914, il y a 82 ans demain. Évidemment que Don Paul Vanier a manqué énormément à sa communauté. Ce fut vraiment tragique. Tragique. Aujourd'hui, mais c'est l'anniversaire, en ce 29 octobre, du décès de Don Jean Anselme Matisse, que je considère un peu comme un deuxième fondateur. Il est mort à l'âge de 76 ans, après une longue maladie. Il était né à Montréal. Et c'est en 29 à 21 ans qu'il est entré au noviciat. Il a été prieur claustral, c'est-à-dire le prieur du monastère, de 1952 à 67. Et il a été économe ou cellérier, comme on dit chez les bénédictins, pendant 40 ans. C'est là qu'il a pris en charge toutes les responsabilités immenses dans l'administration de tout ce qui relève du temporel, comme on dit. Un homme sacrifié, quoi. Il a joué un rôle de premier plan dans la préparation, l'exécution de tous ces travaux de construction qui se sont échelonnés là, de 1955 à 1962, surtout. Et puis, il a fondé en 1952 l'Association des Amis de Saint-Bernard-du-Lac. Il a animé tout ça. Et je vais vous lire tout à l'heure un bref passage d'une conférence qu'il leur donnait. C'est sublime. Il s'est occupé évidemment de l'administration matérielle, mais il s'est occupé aussi de liturgie. Il a énormément insisté sur la qualité de la liturgie. Il en a même parlé à des prêtres assez souvent. J'ai un très beau texte là-dessus. Il s'est occupé d'écuménisme. Il s'est occupé surtout du rapprochement judéo-chrétien. Il a été un apôtre fervent de tout ça. Et dans toutes ses activités, dont Matthys, M-A-T-H-Y-S, M-A-T-H-Y-S, dont Matthys, Jean Anselme Matthys, s'inspirait toujours de la règle de Saint-Benoît. On le voit dans tous ses sermons, ses textes, ses conférences, la règle de Saint-Benoît, puis l'esprit de Saint-Benoît. Il n'a jamais perdu une occasion de les faire connaître, puis de témoigner par sa parole puis son exemple que c'était au cœur de sa vie. Je vous ai dit qu'il était entré en 1929 au monastère de Saint-Benoît-du-Lac, le 3 octobre. Et son témoignage a été tellement puissant à l'époque qu'une trentaine de Montréalais sont devenus moines à Saint-Benoît-du-Lac pendant au moins un certain temps. Il est né d'un père belge de Bruxelles. C'est de là que vient son nom, qui n'est pas... Dans la tradition québécoise, on se comprend, les Québécois qui sont ici depuis des siècles, c'est un nom, autrefois on disait étranger, mais c'est un nom d'ici maintenant, Matthys. Et sa mère était canadienne-française, c'était Honorine Baudry-Lemont, les Baudry-Lemont qui étaient très connus. Il est donc montréalais et québécois, mais d'origine belge. Le maître des novices de Saint-Benoît-du-Lac, dans ce temps-là, c'était un moine qui a fait sensation ici au Québec, c'est Don Léonce Crenier. C'est le père maître, donc, selon l'expression de la tradition monastique, père maître. Et voici, dans la règle, ce que doit faire le père maître des novices, d'après Saint-Benoît. Vous savez, cette règle date du VIe siècle, c'est pas d'aujourd'hui. Du début du VIe siècle. Donc, 100 ans avant l'apparition de l'islam, le signal, ça se situe dans l'histoire. Je vous lis simplement quelques rares passages. Lorsque quelqu'un se présente pour sa conversion, parce que c'est pour se convertir qu'on entre dans un monastère, on ne doit pas facilement lui accorder l'entrée, mais on suivra cet avis de l'apôtre, éprouver les esprits afin de savoir s'ils sont de Dieu. Et c'est ainsi qu'il est entré. On a vérifié pour savoir si ce jeune garçon, jeune Jean-Matthys, était vraiment un homme qui pourrait devenir un homme de Dieu. Dans la règle de Saint-Benoît, il y a des tas de renseignements sur la façon d'entrer dans un monastère. Et comme il est question aujourd'hui de Don Jean Anselme Matthys décédé, en 1984, un 29 octobre, je tiens à vous raconter ça au microphone. Raymond Beaugrand-Champagne, vous êtes à l'écoute de Rencontres spirituelles à Radio-Ville-Marie. Et alors donc, dans la règle de Saint-Benoît, je vous lis quelques autres passages. Si le candidat le promet de persévérer dans une résolution stable, après 2 mois passés, on lui lira cette règle par ordre. Et on lui dira, voici la règle sous laquelle tu veux militer. Militer, c'est un soldat. Si tu veux l'observer, entre, sinon tu es libre de te retirer. » Alors, s'il reste encore, on le reconduira au logis des novices, les jeunes, ou les nouveaux, et l'on continuera d'éprouver sa patience en toutes choses. Et après un laps de 6 mois, on lui lira encore la règle, afin qu'il sache bien en quel but il est entré. Et si après cela il reste encore, on lui lira de nouveau cette même règle après 4 autres mois. Et plus loin, on dit, celui qui doit être reçu promettra devant tous, dans l'église, dans l'oratoire, sa stabilité. La stabilité, ça veut dire l'attachement au lieu, au monastère. Un moine épouse en quelque sorte un monastère. Il passe pas d'un monastère à l'autre en principe. Donc sa stabilité, la conversion des mœurs, donc une transformation complète de son tempérament, pas de son tempérament, mais de l'abolition de ses défauts, un changement, une conversion des mœurs, l'obéissance aussi. L'obéissance, c'est pas toujours facile. Et il fera ça en présence de Dieu et de ses saints. C'est dans la règle. Afin que si un jour il faisait autrement, il sache qu'il sera condamné par celui dont il se serait joué. C'est un peu sévère, mais je crois que si quelqu'un se rend compte que c'est pas sa place, il peut partir. Et plus loin dans la règle, on dit, s'il possède quelques biens, il devra préalablement ou le distribuer aux pauvres ou en faire donation solennelle au monastère. Et on dit un peu plus loin encore, on le dépouillera immédiatement dans l'oratoire de ses vêtements personnels et on le revêtira d'habits appartenant au monastère. Car déjà, les costumes monastiques existaient dans un certain sens. On l'a déjà vu, le jour de la fête de Saint-Viateur, ça existait même quelques siècles avant, dans le désert de Thébaïde, en Égypte. Et on dit qu'on doit garder les vêtements au vestiaire, afin que si un jour, sur l'instigation du diable, il se décidait à sortir du monastère, ce qu'à Dieu ne plaise, on puisse alors lui ôter les vêtements du monastère et le chasser ensuite. C'est terrible. C'est décrit dans le style de l'époque. On ne lui rendra pas néanmoins sa cédule que l'abbé a retirée de dessus l'autel, c'est-à-dire la promesse, l'engagement. On appelle ça une cédule. Donc, le don Léonce Grenier, maître des novices, était un Français. Je l'ai bien connu, don Léonce Grenier. C'était un homme qui n'était pas très grand, avec une petite barbiche, des yeux de feu. C'était un Français converti du communisme. Alors qu'il avait été envoyé au Portugal, à l'époque, comme horticulteur, pour fomenter la révolution communiste. Il était un militant communiste sérieux, hein. Il a été blessé, il a été transporté à l'hôpital. Et là, une dame assez importante de la société portugaise catholique, puis qui était très convaincue, s'est occupée de lui. Et petit à petit, elle a gagné son cœur pour lui enseigner tout simplement les bases de la foi chrétienne, ce qu'on appelle le catéchisme souvent. Il s'est converti. Et après un séjour, il m'avait raconté ça, un séjour, je crois, d'un an ou deux, de grande pénitence dans un sous-sol, à lire et à méditer et à vivre une vie chrétienne dépouillée, mais il a décidé de se faire moine bénédictin. Il est entré à l'abbaye de Saint-Vendry de Fontenelle. Saint-Vendry, c'est ça l'abbaye en Normandie qui a fondé Saint-Benoît-du-Lac. Ils étaient, eux, en exil depuis les fameuses lois de Waldeck-Rousseau qui ont chassé les moines de France au début du siècle. Donc c'est à cette abbaye qu'il reçoit tout le complément de sa formation religieuse chrétienne, puis de sa théologie aussi. Et c'était un grand liseur, Léonce Grenier. Il pouvait dévorer un volume dans le temps de le dire. Alors il assimile avec beaucoup de compétence ce qu'il a lu pour le transformer et pour en vivre. C'était un homme qui mettait en pratique ce qu'il lisait. C'était aussi un bon écrivain. Il avait un don spécial, Léonce Grenier, pour composer des conférences spirituelles puis les écrire pour ses novices. dont Grenier a pris en affection le frère Matisse. Il s'est occupé de sa santé qui était assez frêle, dont Matisse était très grand, hein, très mince. Et il s'est occupé de sa formation spirituelle et mystique dans le détail. Il a eu un bon maître, le frère Jean Matisse. Jean-Anselme Matisse. Il l'a fait profiter aussi de son expérience en dehors de l'Église. Parce que quelqu'un qui vient d'en dehors de l'Église peut parler peut-être avec plus de feu de ce qu'il a trouvé à l'intérieur. Mais c'est encore bien plus par son exemple que par ses paroles qu'un maître des novices peut sculpter, former l'image du Christ que les novices doivent suivre, hein, s'ils veulent imiter ce Jésus pour l'amour du Père. L'amour de Dieu, notre Père. C'est d'ailleurs ce que saint Benoît rappelle très souvent dans sa règle au Père Abbé et aux officiers du monastère. L'exemple n'entraîne plus que les paroles. Et donc Renier était un bourreau de travail, un homme de prière et d'oraison, un grand silencieux qui évitait les bavardages inutiles. Il avait souvent le doigt sur les lèvres pour rappeler à ses novices l'importance du silence. Le silence des paroles, mais aussi ce qu'on appelle en langage monastique le silence d'action. Éviter de marcher fort dans les corridors. Éviter de claquer les portes. Je me souviens d'un confrère qui avait sa cellule à côté de la mienne, il claquait les portes. Un bonjour, tout à coup, hop, il ne les claquait plus, ça lui avait été dit. Évitez aussi de parler fort, hein, un peu partout dans le monastère, quand c'est permis de parler à certaines occasions pour le travail. Donc René était très assidu à l'office divin. Il accomplissait ça avec une immense générosité par amour, pour la gloire du Père et à l'imitation de Jésus. Car la spiritualité des bénédictins, c'est une spiritualité essentiellement trinitaire, et le moine la trouve dans sa stalle, c'est-à-dire à l'endroit où il prie dans l'église. Quand il entre dans sa stalle, il s'identifie à Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui, par sa bouche, le corps mystique du Christ qui crie la gloire de Dieu le Père, l'amour pour Dieu le Père, dans l'unité de l'Esprit-Saint. Le bénédictin a une spiritualité essentiellement catholique, essentiellement chrétienne, essentiellement fondée sur la révélation du Nouveau Testament. Et c'est ce que le frère Matisse a appris. Dans un monastère, c'est ce que le frère Matisse a trouvé, il n'y avait pas de journaux. Il ne pouvait pas écouter la radio naissante durant son noviciat. À l'époque de Don Matisse, on s'éclairait encore à la chandelle avec des lampes de pétrole. Je me souviens de cette époque, moi aussi. J'allais allumer ça. Il n'y avait pas encore d'électricité au petit monastère de Saint-Benoît. Un novice avait la charge de lampiste, il faisait sa ronde bien régulièrement. Pour la chapelle et le réfectoire, on se servait d'une lampe, dite une lampe Aladdin. Il n'y avait pas de chauffage central. Mais le monastère était chauffé quand même à ce moment-là, à la fin des années 20 et au début des années 30, avec de bonnes bûches de bois que les pères coupaient eux-mêmes dans la forêt. Le résultat était que le matin, au moment du réveil pour les matines, le feu étant éteint, on gelait tout rond dans les chambres avant que la chaleur ne se répande à nouveau et ne monte à l'étage des cellules qui avaient des vasistas pour laisser l'air chaud pénétrer dans les cellules. Je me souviens de ces vasistas. C'est des... vous connaissez ça, des vasistas. C'est qu'on pouvait trouver son eau gelée dans son pot. D'ailleurs, c'est en 1900... Il me semble que c'est juste après la guerre que un des supérieurs de Solesmes était venu voir ce monastère de Saint-Benoît-du-Lac, qui était dans cette petite maison de rien du tout. Et quand il a vu son eau gelée, il a dit qu'il fallait chauffer. Il ne pensait jamais qu'il faisait aussi froid au Québec. Je ne sais pas comme en France. Mais même en France, il fait très froid en hiver. Une bonne demoiselle, Yvonne Simard, qui préparait les habits des novices, se lamentait souvent sur les nombreux départs, le peu de persévérance des candidats. Elle avouait à quelqu'un, « Pourtant, ce jeune novice avait l'air bien convaincu, bien enthousiaste, quand je lui avais ajusté son habit. Et j'ai récité un chapelet en le faisant. Mais les pauvres enfants sont pas élevés pour faire des moines, ils sont trop gâtés par leurs parents. » Et ça, elle disait ça en 1926, il y a 70 ans. Je me demande qu'est-ce qu'elle aurait dit si elle avait vu l'éducation des jeunes qui se présentent aujourd'hui dans les monastères, hein? Car il y en a encore. Au temps où le frère Matisse faisait son noviciat, il y a attrapé une bonne pleurésie qui va l'obliger à interrompre son noviciat. Il va s'en aller à l'hôpital de l'Hôtel Dieu de Sherbrooke, sous les soins d'un docteur Baudry. Et c'est là la première grosse épreuve de noviciat. Mais pour le reste, il a sauté à pieds joints dans le programme d'austérité qui était pratiqué très fortement au monastère du temps de Don Léonce Grenier. Ça l'a préparé d'ailleurs à sa charge de conseiller moral des amis de Saint-Benoît-du-Lac, où il était assez exigeant des fois. Et certains amis de Saint-Benoît-du-Lac avaient tendance parfois à protester un peu. Il a été, je vous l'ai dit déjà, prieur claustral, c'est-à-dire qu'il était le bras droit du... non pas du père abbé, il n'y avait pas de père abbé. Non, il a été prieur claustral, c'est vrai, sous le règne, si on peut dire, du père abbé Don Odule Sylvain, qui avait été mon maître de novicement. Car Don Odule Sylvain a été élu abbé du monastère en 1952, c'est à compter de cette date qu'il est devenu, le père Matisse, bras droit du père abbé. Pendant tout ce temps, bien, Don Matisse s'occupe de quêtes à travers le Québec, et même le Canada. Il s'occupe beaucoup du problème de la célébration de l'office divin, de la vie monastique, de construction. Il trouve sa sérénité bénédictine, malgré tout, dans une fidélité à la récitation de son bréviaire quand il est en dehors du monastère. Autrement, au monastère, je me souviens, il était toujours présent, très grand, s'inclinant à la fin de tous les psaumes, comme tous les moines, pour dire « Gloria Patri et Filio » en latin, « La gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit ». Il rendait gloire à Dieu de toute la grandeur de son long corps. Grandes inclinations. Il aimait aider les autres, et sa vie s'est écoulée rapidement. Il n'a pas le temps de regarder passer la cause de ses nombreuses occupations, de ses charges. Et voilà que pour préparer les fêtes de son 50e anniversaire de profession, Don Matisse souffre d'une thrombose qui le fait entrer à l'hôpital pour son carême préparatoire au temps pascal de 1981. Et là, monsieur, madame François Matisse, qui possédait une propriété de campagne pour l'été sur le bord du lac des Deux-Montagnes, se sont servis d'une partie de leur monastère pour fonder, bien des années auparavant, Sainte-Marie des Deux-Montagnes, où la sœur du père Matisse, mademoiselle Claudine Matisse, va entrer pour se devenir moniale. Et alors, petit à petit, le temps s'approche où Don Matisse va mourir le 29 octobre 1984. Les funérailles de Don Jean-Anselme Matisse ont été tenues, évidemment, à Saint-Benoît-du-Lac le 31 octobre 1984, la veille de la Toussaint. Voici quelques passages de l'homélie qui a été prononcée par le père abbé lors des funérailles. Le père abbé, dont Jacques Garneau, n'est-ce pas, qui est toujours abbé de Saint-Benoît-du-Lac, un homme humble et bon, un homme extraordinaire. Il commence ainsi, « Le père Matisse nous a quittés lundi dernier après avoir reçu le corps du Christ. Son voisin de chambre à l'infirmerie, le père Crépeau, lui a donné l'absolution en fauteuil roulant. Et c'est ainsi que chaque jour, Dieu nous poursuit de son amour, à travers toutes nos infirmités, physiques et morales, jusqu'à notre dernier moment. Nous célébrons cet événement à la veille de la fête de tous les saints et de la commémoration de tous les fidèles défunts. Or, les lectures de la fête de tous les saints nous parlent de la vie éternelle qui nous attend, qui est déjà commencée. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est la foule immense des rachetés qui viennent de la grande épreuve, qui ont lavé leurs vêtements et les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Et plus loin, il dit, « Je suis là à vous parler de ce que nous allons vivre demain, mais c'est toute notre vie qui est tendue vers demain, vers cette plénitude de bonheur. » Le père Jean Anselme sans doute aidé par son pacemaker, a hâté le pas un peu plus que nous. Il est maintenant rendu. Et il a pour lui ces paroles réconfortantes de l'Église. Pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. L'évangile que nous avons entendu tout à l'heure nous a parlé précisément de voyage et de demeure, et le père Jean Anselme a été un grand voyageur, mais il n'a pas erré à l'aventure. Toute sa vie, il a poursuivi un but. Et plus loin, il dit en raison du nombre croissant des visiteurs, le besoin d'une hôtellerie se faisait sentir, et les membres du clergé avaient apporté leur large contribution pour la construction du monastère vers 1940. Le père Jean Anselme organisa donc cette fois-ci le mouvement des Amis de Saint-Benoît-du-Lac pour la réalisation de ce projet d'envergure, et c'est alors, avec la collaboration de quelques moines et de nombreux laïcs, qu'il lança une vaste campagne de souscription, où il fit sa réputation de maître quêteur. Les travaux purent commencer en 1955. Et en 1962, grâce à la formation du fonds de construction réalisé peu de temps auparavant, et qui mit sur pied une campagne à finir, nous pouvions assister à l'inauguration de la nouvelle hôtellerie pour souligner le 50e anniversaire de fondation du monastère. Je vous signale en passant qu'il y a donc une hôtellerie là-bas, et pour les hommes, et pour les femmes. Et que si vous y allez le dimanche, vous aurez une messe magnifique comme tous les autres jours. Mais je vous préviens, le magasin, si vous voulez acheter toutes sortes de souvenirs, n'est pas ouvert le dimanche, seulement les autres jours. On respecte le dimanche à Saint-Benoît-du-Lac. Et dans cette homélie du père abbé, il y est dit que le père Jean Anselme ne s'est pas occupé que de choses matérielles, il a voulu donner au mouvement des Amis de Saint-Benoît un caractère plus spirituel, pour répandre dans le monde le message de Saint-Benoît, un message de foi, de paix et d'unité. Et c'est ainsi qu'il a été amené à établir des contacts avec nos frères séparés et à favoriser les relations judéo-chrétiennes. Et conférencier, il a parcouru la province en tous sens. Pendant de nombreuses années, il a organisé des sessions de liturgie. Il s'est révélé un grand meneur d'hommes, capable de stimuler les énergies, de susciter de l'enthousiasme. Il avait la foi et l'audace d'un fondateur, une confiance sans borne en la divine providence. Sa grande dévotion envers la Vierge Marie et Saint Joseph l'a aidé à surmonter toutes les difficultés sans jamais se laisser abattre. Et frappé par la maladie, il a conservé son sens de l'humour jusqu'à la fin, et c'est vrai qu'il avait un grand sens de l'humour, et un sourire merveilleux. Et le père Garneau, dont Garneau, le père abbé, ajoute, et pourtant malgré ses qualités vraiment exceptionnelles, le père Mathis est resté tout près des gens. Pour bien des âmes, il a été un guide, un ami, un frère, un père, sur qui on pouvait compter. Combien c'est vrai, ça. Je voudrais terminer par une acclamation que le père Jean Anselme aimait employer comme un cri de ralliement. Alléluia pour tout ce que le Seigneur a fait en lui et par lui. Alléluia pour tout ce que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, lui a pardonné. Alléluia enfin pour nous, qui saluons en lui un ami, un frère, un père, qui nous restera toujours très cher. Oui, loué sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, toi qui nous conduis tous vers la demeure de notre Père. Et c'est ainsi que se terminait cette homélie très belle du très révérend Père Abbé, dont Jacques Garneau. Dans une conférence qu'il donnait aux Amis de Saint-Benoît-du-Lac, le 21 mai 1977, il rappelait ce que les prophètes, qui étaient témoins du Dieu d'Israël, ont rappelé le décalogue, c'est-à-dire les commandements de Dieu, « Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. » Et tout ça, ces commandements pour trouver le bonheur. Et Don Matisse disait, « Les dénonciations de l'injustice sociale sont sous toutes ses formes, dans le peuple choisi, le peuple élu de Yahvé, sont toujours contrebalancées par une perspective plus ou moins prochaine de conversion, de retour à la justice, et par l'annonce du triomphe de la justice sur l'injustice grâce à la miséricordieuse tendresse du Dieu d'Israël. Tout se termine toujours, ajoutait Don Matisse, dans une perspective d'espérance messianique. Je vous invite à ne jamais oublier cette approche du problème de la justice sociale, si vous le faites avec un véritable esprit chrétien, car notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu Satan et a vaincu le monde, comme Jésus le dit dans Saint Jean au chapitre 16, et dans son épître aux Colossiens, au premier chapitre, Saint Paul déclare « Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui, car Dieu s'est plu à faire habiter en lui toute la plénitude. Et par lui, il a réconcilié tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. » Et il terminait par ces belles paroles. C'est une vision théologique réaliste et remplie d'optimisme. Que doit avoir un vrai chrétien, ami de Saint-Benoît, lorsqu'il aborde le très complexe problème de la question sociale? Oui, il faut s'écrier avec Paul dans son épître aux Romains, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur ?» Il s'intéressait beaucoup aux questions sociales. Il s'intéressait beaucoup à la prise de position chrétienne des laïcs dans le monde. Et quand il parlait aux prêtres, il leur rappelait l'importance de la lecture de l'office. Et quand il parlait de l'office du soir qui lui était cher, il disait « Un chrétien ne se laisse pas glisser dans la torpeur, dans le sommeil de la nuit, comme une poche ou un sac de ciment. Il est clair que nous avons besoin de repos et de sommeil. » Et sans doute, par quelques stimulants pouvons-nous prolonger notre veille? Mais un jour, il faut bien accepter de sommeiller plus longtemps. Et un jour, ce sera la grande capitulation de la mort. Et 12 ans après avoir dit ça, il est mort d'ailleurs. Il disait que dans la marche, dans le voyage, dans l'ascension de la montagne, il dit « Nous vivons dans le temps, mais il ne faut pas perdre de vue le temps éternel. » Jésus, qui n'a jamais oublié le temps des hommes, n'a jamais oublié l'autre temps. Il le déclarait à ses concitoyens, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus savait que l'éternité, c'était son temps à lui, puisqu'il était Dieu. Et Don Matisse a tellement dit de belles choses sur la liturgie, que je pourrais vous en parler pendant des jours et des jours. C'est magnifique ce qu'il disait. Cher Père Matisse, que j'ai si bien connu, je vous supplie de nous aider à comprendre les paroles de la messe aujourd'hui, quand Jésus dit à la foule, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Cher Père Matisse, c'est ce que vous avez fait à Saint-Benoît-du-Lac. Il y a là un immense monastère, où nous pouvons, nous, comme des oiseaux, nous reposer sur ses branches et entendre le chant d'acclamation à Dieu. Merci, Père Matisse.